Mandrin. Première partie, chapitre 12. Maître Alcofribas. Le grand repas qui avait suivi la cérémonie du mariage de Nicole et de Bourré d'Érigny s'était prolongé fort avant dans la soirée. En effet, à cette époque, ce qu'on appelait un dîner de noces n'était point des agapes ordinaires. Contrairement à ces jeunes épousés qui contemplent avec ravissement le jour de leur mariage, l'horizon bleu de ce bonheur sur lequel, 9 mois sur 10, elles s'arrogent, parfois un peu témérairement, le droit de compter, Nicole, au milieu de l'allégresse qui enflammait tous les convives, avait l'impression qu'elle assistait à sa propre agonie. Il lui semblait que, lentement, peu à peu, les battements de son cœur se ralentissaient, s'espaçaient et se faisaient de plus en plus attendre. Et son désespoir intime se traduisait par une attitude lointaine qui la rendait plus jolie encore. « Comme elle est timide !» se confiaient les uns et les autres. Et personne, pas même l'égoïste et orgueilleux fermier général, qui lui pourtant ne pouvait ignorer le drame dont elle souffrait, pas même le sempiternel endormi qu'était son père, pas même l'exubérante et optimiste Thérèse ne songeait à se dire « qu'elle est malheureuse ». Et cependant, malheureuse, elle l'était, autant et plus que peut l'être une âme de sa trempe, à la fois si généreuse et si fine, d'un élan si loyal et si pur. Plus que jamais, l'idée de mort la hantait, la dominait, au point qu'elle en arrivait à souhaiter que son cœur s'arrêtât tout à fait. Plus que jamais, elle souhaitait de mourir avant d'appartenir à celui qui, après avoir violenté sa volonté, s'apprêtait à exiger d'elle le plus complet des sacrifices. Mais elle craignait de ne pas avoir le courage d'en finir, surtout lorsque son regard s'arrêtait sur ses parents, auxquels elle pardonnait tout, puisqu'ils étaient convaincus tous les deux qu'elle était appelée à la plus brillante des destinées, et elle ne savait plus que se réfugier dans sa détresse, d'autant plus grande qu'elle n'avait pas le droit de laisser couler les larmes qui l'étouffaient, et, au milieu de cette atmosphère de gaieté, parmi ses conversations, ses rires, qui ne parvenaient plus à ses oreilles qu'en un lointain murmure, ajoutait encore à l'accablement qui l'abattait. Bourré, fort adroitement, se gardait bien de lui prodiguer les prévenances exagérées qui n'eussent réussi qu'à attirer l'attention générale sur l'attitude de la jeune mariée. Tout en usant envers elle des attentions nécessaires, mais dans une sobre mesure, il s'efforçait surtout de rester le maître de la maison, le grand seigneur affable envers tous. Il répondit avec un tact et un esprit parfait au toast, ou plutôt au véritable discours en 3 points avec exorde et péroraison, que le président du Parlement de Grenoble adressa emphatiquement aux jeunes époux. Et ce fut au milieu d'un concert d'admiration, d'éloges et de sympathie qu'il conduisit Nicole dans le grand salon du château où tout avait été préparé pour le grand spectacle que devaient donner les comédiens ambulants dont il avait accepté les offres. Devant une estrade, dissimulée derrière un rideau, les spectateurs prirent place sur des fauteuils et des banquettes. Au premier rang, Bourré d'Érigny, Nicole, M. et Mme Malisset étaient encadrés par leurs invités de marque, qui se réjouissaient d'avance d'assister au jeu de ces histrions dont, au cours du repas, leur hôte leur avait vanté les attitudes bouffonnes et les savantes pirouettes. Bientôt, 3 coups espacés retentissaient sur le plancher des tréteaux et, dans un immédiat et complet silence, un arlequin, dont le visage disparaissait à demi sous un loup de velours noir, surgissait et, tout en faisant de rapides moulinets avec sa batte, saluait l'assistance avec une élégante adresse. « Gentes dames et nobles seigneurs, lança-t-il d'une voix claire et juvénile, la compagnie de l'illustrissime Alcofribas va avoir l'honneur insigne de charmer vos yeux et de réjouir vos oreilles. Avant d'assister au tour aussi surprenant que fabuleux de notre maître, je demanderai à l'honorable société de bien vouloir accorder quelques instants de bienveillante attention au prodigieux exercice de l'un de nos compagnons, le célèbre capitaine Matamor, qui a mérité, à juste titre, le surnom de « l'homme le plus fort du monde ». Ainsi que vous allez en juger vous-même, Hercule, le fameux demi-dieu de l'Antiquité païenne, eût été incapable de rivaliser avec notre camarade. Gentes dames et nobles seigneurs, ne nous ménagez pas vos bravos, et croyez que, stimulés par un si superbe auditoire et galvanisés par le doux regard de la plus jolie mariée de France et de Navarre, la troupe du célèbre Alcofribas aura à cœur de triompher devant vous. De nombreux applaudissements accueillirent ce boniment, débité avec une rare assurance. Mais Arlequin disparaissait en une pirouette, derrière le rideau, qui ne tarda pas à s'écarter, laissant apparaître une scène improvisée dont les côtés étaient garnis de riches tapisseries et dont le fond était formé par une porte basse qui s'ouvrait sur un petit salon dont la troupe d'Alcofribas avait fait son foyer. « Le capitaine Matamor !» annonçait Arlequin avec solennité. Tandis qu'il disparaissait derrière l'une des tapisseries, la porte du fond s'ouvrit à deux battants et un grand diable, au costume pittoresque, coiffé d'un large chapeau à la plume écarlate, s'avança sur l'estrade, flanqué d'un pierrot au visage enfariné et encore plus blanc que sa classique défroque. Le capitaine Matamor s'inclina par trois fois devant le public. Puis le pierrot lui emprisonna le bras et les jambes avec une lourde chaîne qu'il lui enroula autour du corps. Le capitaine parut alors tendre tous ses muscles en un colossal effort, gonflant les veines de son cou et de son front à les faire éclater. Mais la chaîne résistait à cette pression qui, à en juger par les manifestations extérieures du Matamor, devait être formidable. Sans se décourager, le capitaine, après avoir aspiré l'air de ses puissants poumons, renouvela sa tentative. Cette fois, elle réussit et la chaîne retomba lourdement sur le plancher. Tout le monde applaudissait longuement l'auteur de ce tour de force incomparable, lorsque le pierrot qui s'était baissé pour ramasser la chaîne se releva en montrant, d'un air volontairement stupide et ahuri, un morceau de ficelle rompu dont les deux bouts étaient encore attachés au maillon de la chaîne. La supercherie était manifeste, mais le pierrot était si naturellement déconfit, le Matamor exprimait une si grotesque colère que tous, sauf Nicole, qui était loin, oh, bien loin de là, et le papa Malicé, qui s'était déjà endormi, partirent d'un vaste éclat de rire. Mais Arlequin revenait en scène, et chassant avec sa batte les deux acteurs qui avaient, provisoirement du moins, terminé leur rôle, il annonçait pompeusement « Place maintenant à l'illustrissime Alcofribas. » Les rires se turent comme par enchantement, et ce fut avec une curiosité des plus sympathiques que l'auditoire accueillit l'apparition de l'escamoteur. Bourré d'Érigny, se penchant vers Nicole, lui murmura « Je crois décidément que j'ai bien fait d'accueillir ces faquins, et que grâce à eux, nous allons passer une heure fort divertissante. » Alcofribas attaquait avec volubilité. « Gentes dames et nobles seigneurs, je vais avoir l'honneur d'exécuter devant vous quelques tours de passe-passe. » Sortant de sa large manche un jeu de cartes, il fit apparaître avec une habileté vraiment remarquable toutes celles dont on lui lançait les noms. Puis, après les avoir rassemblées en éventail, et tout en ayant l'air de les projeter dans les airs, il les fit fort adroitement disparaître dans sa manche. Enfin, s'avançant jusqu'au bord de l'estrade, il reprit, visiblement satisfait du réel succès qu'il venait d'obtenir, « Et maintenant, de plus en plus fort, gentes dames et nobles seigneurs, je vous propose d'escamoter la plus grosse personne de la société. » À ces mots, tous les regards se dirigèrent vers Monsieur et Madame Malicet. Mais déjà, l'opulente Thérèse, secouant Agénor, lui disait « Eh bien, qu'est-ce que tu attends? La plus grosse personne de la société, n'est-ce pas toi ?» Brusquement réveillé, Malicet considéra sa femme d'un regard ahuri et scandalisé. « Mais oui, va, va donc !» incitait la commère parmi les éclats d'une gaieté sans cesse grandissante. Soudain, Agénor ouvrit toute grande la bouche. Cette fois, ce n'était nullement pour exprimer un bâillement, mais pour proférer, ou plutôt pour mugir, deux syllabes qui eurent pour résultat immédiat d'augmenter l'hilarité générale. « Et toi ?» Thérèse se dressait, furieuse, et s'écriait la main haute. « Oh, monsieur Malicet, vous mériteriez !» Mais fort galamment d'ailleurs, maître Alcofribas intervenait. « Je m'en voudrais d'apporter le moindre trouble dans un ménage qui jusqu'ici n'a point manqué d'être gouverné par les tendres lois de l'amour. Aussi vais-je faire disparaître, non pas la plus grosse, mais la plus aimable personne de cette si noble assemblée. » À peine le prestidigitateur avait-il prononcé cette phrase que la colère de Madame Malicet tomba comme par enchantement. « La plus aimable personne !» fit Thérèse avec son plus gracieux sourire. Et, d'un pas délibéré, elle s'avançait vers les tréteaux. Mais Alcofribas lui faisait courtoisement observer « Pardon, madame, il me semble que cette adorable mariée... » « Oui, oui !» approuvaient tous les invités en désignant Nicole, qui, toute confuse, baissait la tête et semblait n'avoir guère envie de se prêter à cette farce. Alcofribas insistait. Toutes les femmes qui avoisinaient Nicole la pressaient de se rendre à l'invitation du prestidigitateur qui multipliait ses gestes engageants. Alors, Madame Malicet, saisissant sa fille par la main, l'entraîna jusqu'au pied de l'estrade dont elle gravit les 3 degrés, accueillie avec toutes les marques de l'admiration la plus respectueuse, en même temps que de la bienséance la plus correcte, par le physicien qui tenait tant à l'escamoter. L'expérience s'annonçait d'ailleurs fort simple. Aucun préparatif mystérieux, aucune boîte à double fond, aucune trappe dissimulée dans le parquet. Alcofribas pria simplement Nicole de se placer au milieu de la scène. Puis, il fit étendre devant elle, par Pierrot et Arlequin, un rideau d'étoffe noire qui la dissimulait entièrement aux spectateurs et barrait toute la largeur et presque toute la hauteur de l'estrade. Alors, Alcofribas se pencha vers Nicole et, tout en ayant l'air de prononcer des paroles cabalistiques, il lui glissa à l'oreille. « Pas un cri, pas un geste. Je suis mandrin et je viens pour vous sauver. » Nicole, bouleversée, n'eut pas le temps de se ressaisir. Scapin et Scaramouche, qui avaient surgi sur les tréteaux, l'entraînaient par la petite porte du fond que l'auditoire n'avait pas pu voir s'entrouvrir. Et l'étrange escamoteur, arrachant brusquement le rideau noir, faisait constater que Nicole avait disparu. Bourré d'Hérigny donna le premier le signal des applaudissements qui crépitèrent avec enthousiasme. Mais soudain, Mandrin, qui se répandait en courbettes de gratitude, eut un léger tressaillement. Il venait d'apercevoir, tout au fond de la salle, un homme vêtu de noir, dont il reconnaissait immédiatement la silhouette autant sinistre qu'inattendue. Pistolet. Et la voix de l'exempt Trollon vibra, terrible, comme un subit appel aux armes. « Mandrin est dans le château !»